Bonjour à tous, merci d'écouter Parole aux auditeurs qui se penchent ce vendredi sur la journée internationale des migrants célébrée le 18 décembre de chaque année et ça sera le dimanche prochain. Parole aux auditeurs se penche pour en parler bien sûr dans son message à l'occasion de cette journée. Le secrétaire général des Nations Unies indique que seuls 45 pays ont ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Le secrétaire général de l'ONU invite tous les autres à souscrire à ces grands textes pour s'engager concrètement à protéger et promouvoir les droits de l'homme de tous les migrants sur leur territoire. Lorsque leurs droits sont violés, lorsqu'ils sont marginalisés et exclus, les migrants ne peuvent rien apporter, ni financièrement, ni socialement, à la société qu'ils ont quittée, ni à celle qui les rejoint. Plusieurs Congolais prennent chaque jour le chemin de l'étranger pour plusieurs raisons, et certains y vivent aussi irrégulièrement. Que proposez-vous pour encadrer le flux migratoire des Congolais vers l'étranger? Nous en parlons avec vous. Nous avons invité M. Emery Egide Kianga, chargé des opérations au bureau de l'Organisation internationale des migrations OIM en RDC. Marie-Chantal Lumba, Titi Poutou, Clovis Lugula et Jocelyne Nyanga sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Sylvain Matundu et Nico Ngata, la supervise. Pierrot et la MJ à la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à vous.
C'est parce que Radio Capuine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Emery Egide Kianga, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager avec les auditeurs des Radio Capi la problématique, bien sûr, en la journée internationale des migrants qui sera célébrée le dimanche. Nous en parlons aujourd'hui en parole aux auditeurs. Les auditeurs qui ont besoin d'intervenir peuvent nous appeler au 081-890-6315. La première question que je m'avais vous posée, vous avez une idée des statistiques par rapport aux Congolais qui vivent à l'étranger à ces jours?
Franchement, je peux pas vous donner des statistiques parce que nous avons un sérieux problème. C'est comme ça que nous essayons d'appuyer la direction générale d'immigration pour arriver à avoir des statistiques. Vous savez qu'il y a beaucoup de points de sortie de la RDC qui n'ont pas de possibilité de recueillir toutes les statistiques des migrants. Donc, je ne pourrais pas répondre avec un chiffre exact, mais il y a beaucoup de sources qui parlent de plusieurs millions de Congolais qui seraient à l'étranger.
Mmh. Mais en quoi consiste effectivement l'appui de l'OIM auprès des institutions congolaises ou voire même auprès des migrants? En quoi consiste effectivement votre travail pour permettre aux auditeurs de comprendre comment cela fonctionne-t-il?
L'OIM, d'abord, c'est une organisation intergouvernementale qui a comme membre aussi la RDC et par ses activités à travers le monde, nous appuyons les organisations ou les services de l'État qui s'occupent de la migration. Et en RDC, nous avons un partenaire, pas privilégié, mais un premier partenaire, c'est la Direction générale des migrations. Nous essayons d'appuyer ce service de l'État congolais dans la gestion du flux migratoire. Donc, pour qu'ils aient des outils modernes pour contrôler qui entre au pays et qui sort du pays. Et à la fin, par exemple, à la fin d'un exercice, une année, savoir combien de Congolais sont partis à l'étranger et combien d'étrangers sont arrivés sur le sol congolais. Donc voilà, nous avons cet appui-là institutionnel aussi à la nouvelle direction des Congolais des étrangers qui a été créée. Nous essayons d'appuyer avec les autres partenaires et nous avons aussi la facilitation ou l'assistance aux migrants qui quittent les pays, qui quittent la RDC pour aller dans d'autres pays. Mmh. Et là, nous parlons plus du regroupement familial, de la réinstallation pour tout ce qui se passe avec les réfugiés. Et nous avons aussi une assistance que nous accordons aux retournés au pays. Mmh. Donc, les retournés volontaires, ceux qui ont tenté une expérience de vie ailleurs, ça n'a pas marché, et qui demandent notre assistance pour qu'ils reviennent en RDC et repartir dans leur vie. Voilà un peu en résumé les activités que nous organisons en RDC. Mmh.
Mais en ce qui concerne les retournés, ceux qui sont allés tenter ailleurs et qui voudraient retourner, l'intervention, c'est à quel niveau? C'est leur offrir la possibilité d'avoir de l'emploi, c'est faciliter l'obtention des documents, les titres de voyage. À quel niveau se trouve l'intervention par rapport à ceux-là qui voudraient quitter le projet pour retourner au pays?
Oui, et dans le premier temps, je voudrais clarifier que ceux qui reviennent au pays, c'est ceux qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans les pays d'accueil. Par exemple, qui n'ont pas des papiers, qui pour une raison ou une autre, par exemple, la difficulté de s'insérer dans la société, et le vieillard, par exemple, ou des gens qui sont d'un certain âge, qui essayent de demander pour rentrer calmement au pays. Alors, nous essayons d'assister ces gens-là. D'abord, dans les pays d'accueil, quelqu'un qui fait la demande, on essaie de lui expliquer la procédure de notre assistance. Mm-hmm. À quoi consiste notre assistance? C'est lui faciliter les moyens de transport. Mm-hmm. Et une fois qu'il arrive au pays, on peut l'aider, selon l'État, à commencer une activité qu'on nous appelons génératrice de revenus. Mais ça dépend d'une personne à une autre. Ça peut être aussi de reprendre les études. Ça peut être aussi une possibilité de trouver un emploi. D'ailleurs, maintenant, nous sommes en train d'expérimenter un nouveau programme ou une nouvelle approche pour essayer de trouver des emplois partiels auprès des entreprises pour ceux qui reviennent. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je ne vais pas donner les montants de notre assistance parce que c'est au cas par cas selon le pays d'où les gens reviennent en RDC. Et l'assistance aussi, et soit c'est les frais médicaux, ils reviennent au pays pour être assistés dans la facilité médicale, soit c'est la formation au métier ou la formation académique ou scolaire classique, ou la mise en place d'une activité génératrice de revenus.
Voilà. On vous garde dans l'île, le temps d'écouter aussi les auditeurs qui sont vraiment concernés par cette question. Ils vont nous dire ce qu'eux pensent de mesures qu'il faudrait pour accompagner, encadrer les Congolais dans leur mouvement d'immigration, parce que nous avons dit c'est l'encadrement du flux migratoire des Congolais vers l'étranger. Les auditeurs, si vous avez aussi un témoignage, vous êtes à l'étranger, vous avez besoin d'intervenir, vous nous suivez sur www.radiotapi.net, vous avez besoin de témoigner, de nous présenter aussi votre expérience dans cette émission, appelez-nous au 083 081 890 63 15, 081 890 63 15. Vous pouvez aussi nous écrire par pa@radiotapi.net.
Parole aux auditeurs.
Nous avons ici au pays Camara qui est à Bounia en province orientale. Bonjour Camara.
Bonjour M. Thiro.
On vous écoute Camara, nous dégageons ensemble les pistes de solutions pour encadrer les Congolais qui voudraient bien sûr aller à l'étranger, comment encadrer ces flux migratoires, parce que vous avez vu il n'y a pas longtemps, on a fait plusieurs émissions quand les Congolais ont été expulsés de l'Angola, beaucoup de gens ont pensé qu'il faudrait un encadrement, parce qu'il y en a aussi qui vivent ailleurs, qui n'ont pas de papiers, qui ont beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que vous pensez que tout s'est fait, Camara?
Oui, merci beaucoup, M. Thiro. Je pense que encadrer les Congolais qui aspirent aller dans un pays faible en frontière, c'est pas mauvais, donc j'apprécie ça à juste valeur. Mais il y a aussi une question par rapport à ce qui est comme raison fondamentale pour que les gens aspirent toujours à quitter ce beau pays où il y a autant de potentialités, il y a autant de l'air qui pourrait encore nous donner autant de satisfaction. Et je me dis que si aujourd'hui il y a encore ce service de l'OIM qui fait encore un travail vraiment à féliciter, c'est bon. Mais nous pensons que cet accadement devrait être aussi accompagné des mesures incitatives, ou pourquoi pas d'autres mesures drastiques pour qu'on ne puisse pas assister à des immigrations un peu en parallèle ou des immigrations un peu clandestines, ce qui n'est pas quelque chose à encourager dans ce pays parce que nous avons de nos confrères ou de nos concitoyens qui sont à l'étranger et là ils sont en train de se dire que dès lors qu'ils n'ont pas de papiers, généralement ce qu'on les appelle des Congolais refoulés ou des Congolais sans papiers, ça nous déshonore, ça fait que l'image de ce pays est en train d'être discréditée. Nous pensons qu'il faudrait essayer d'harmoniser bien sûr avec le service de l'OIM, bien entendu avec donc le service d'immigration ici, TGM, qui est un service national, qui peut encore mieux harmoniser tous les documents nécessaires pour que les Congolais soient bien réinstallés dans les milieux d'accueil et que toutes les conditions soient bonnes et que nous puissions aussi voir comment les Congolais puissent être mieux accueillis dans les pays où ils aspirent toujours aller.
Merci Tamara, on a suivi votre souci. C'est qu'il y ait des mesures, mais que les mesures soient plus aussi pour arrêter l'immigration clandestine, vous l'avez dit, et que les gens soient accompagnés pour partir légalement et qu'ils puissent être installés, bien accueillis, plutôt que voir ceux qui vont clandestinement et subir autant de difficultés. Merci beaucoup, camarade de Bounia. Nous avons Ezekiel qui est à Taranga, au Kasaï occidental. Bonjour, Ezekiel. Ezekiel, on a des petits soucis de ligne avec vous. Pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu au même, en attendant, hein, vous continuez votre propos.
Oui, Pierre, je passe bien, je crois.
Ça va maintenant, on peut y aller de l'avant, oui.
Ok, merci. Vraiment, j'aimerais un peu partager cette inquiétude que j'ai à l'égard de la migration que nos frères sont en train d'effectuer ici, notamment en RDC. J'aimerais un peu stipuler quelques cas ou quelques causes vraiment qui poussent à ce que nos frères puissent émigrer. Et nous constatons nous-mêmes que dans nos milieux ruraux, je suis en ville, nous sommes poussés par la pauvreté et lorsque quelqu'un est pauvre vraiment, il apprécie et il peut peut-être s'en aller quelque part dans un autre pays, là où il peut trouver la façon de vivre, tout ça, c'est ce qu'on croit. Alors la pauvreté nous pousse à faire de migration, nous quittons de l'endroit à l'autre, nous nous retrouvons dans un pays, là nous n'avons même pas de terre, nous n'avons pas de travail, tout ça, on commence à souffrir, après la souffrance, on revient vraiment au pays, donc n'ayant rien à la main, tout ça, on commence à souffrir, on nous appelle de n'importe quelle manière, tout ça. Vraiment, ça déshonore l'état d'un Congolais, vraiment un citoyen qui puisse être celui, qui puisse être à part du boulot, étudier, progresser, mettre, je ne sais pas, en termes de société, de projet de société, tout ça, pour se développer. Et aussi, il y a un point là, l'instabilité encore des politiciens. Vous voyez que lorsqu'il y a l'instabilité politique dans notre pays, donc ça peut aussi pousser des personnes à pouvoir dire à ce pays vraiment ça ne va pas justement. Alors, la personne peut s'engager, la personne qui retrouve quelque part commence à souffrir pour finir, la personne encore retourne au pays. Et le soir des guerres, tout ça, donc ça pousse vraiment nos frères à pouvoir quitter le pays pour se rendre peut-être quelque part et mener une mauvaise vie. Prenons, monsieur l'exemple du territoire de Chikapa. Donc, chaque fois, on sait qu'il y a un temps de non, à Chikapa, il y a eu 300 réfugiés. Oh, ils sont un peu en Angola, tout ça. Et nos frères aussi. Parce que non, en Angola, vraiment, c'est là où on peut retrouver de l'argent, constituer de l'or, passer sur la terre, on va ramasser tout ça. Ils partent là-bas, ils perdent leur temps. Revenir ici, ils n'ont rien, tout ça. Donc, ça déshonore vraiment l'état d'un Congolais. C'est pourquoi le gouvernement doit mettre en place peut-être un processus nous permettant à ce qu'on ne puisse pas retrouver vraiment des personnes, des vagabonds qui puissent faire la honte de notre pays. En notre cas aussi, qui gèrent l'habitude d'autres pays, suivre des voies légales ou des voies légaux peut-être, acheter des passeports, acheter son passeport, aller ailleurs, être connu par l'ambassade, c'est bon. Mais aller comme un chien qui je ne sais pas si ça, manger de la viande, de l'autre, Alors, on risque de revenir vraiment pêle-mêle. Alors,
merci, voilà, merci Ezekiel. Vous avez dit pour vous trois raisons qui font que les gens puissent quitter leur pays pour aller à l'étranger, surtout. Nous parlons de la RDC des Congolais. Il y a la pauvreté, il y a l'instabilité politique, mais il y a aussi les guerres qui poussent les gens à partir. Mais enfin, vous avez exhorté les Congolais qui voudraient bien aller ailleurs de pouvoir le faire d'une manière légale. Merci beaucoup. Nous avons Bob qui nous appelle de l'Afrique du Sud. Bonjour, Bob.
Bonjour.
Oui, nous sommes en train de parler, bien sûr, de la Journée internationale des migrants. Vous êtes en Afrique du Sud. Vous avez suivi à l'introduction de cette émission où le secrétaire général des Nations Unies a exhorté beaucoup de pays à pouvoir ratifier la Convention internationale pour protéger les droits des travailleurs migrants. Vous êtes en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de Congolais qui voudraient aussi aller prendre l'avion pour aller en Afrique du Sud. Par rapport à l'expérience que vous vivez sur place en Afrique du Sud, pourriez-vous avoir un conseil à donner à d'autres Congolais qui ont besoin, par exemple, d'y arriver, ou soit un conseil dans le sens qui décourage, comme l'a dit notre auditeur des Kananga, ceux-là qui voudraient immigrer clandestinement?
Bien, j'ai bien suivi le secrétaire général de l'ONU, et voilà pourquoi j'ai voulu intervenir dans ce sens, d'encourager nos frères et de leur dire que ce n'est pas du tout l'Eldorado. Venir à l'étranger n'est pas le mort de tout avoir. Et je comprends aussi que certains d'entre nous qui ont décidé à quitter le pays, c'est déjà parce que nous le voulons. C'est voir les conditions dans lesquelles nous vivons et qu'on a bien étudié, nous avons des questions, nous sommes qualifiés, mais du fait qu'on n'a pas d'emploi, voilà pourquoi certains d'entre nous avons décidé de quitter. Ce n'est pas d'ailleurs pas seulement la guerre qui fait assez que nous puissions quitter. Mais la situation économique aussi du pays ne nous permet vraiment pas de rester au pays. Et voilà pourquoi nous décidons souvent à quitter le pays. Mais je crois pour mes frères qui sont au Congo, en effet, de venir en Afrique du Sud. Car, comme je l'ai bien expliqué, ce n'est pas un Eldorado. Et par contre, nous travaillons, nous faisons des travaux qui ne sont pas dignes de nos études par rapport aux études que nous avons faites au Congo. Nous sommes bien qualifiés, mais il arrive à ce que nous faisons des travaux qui ne sont pas dignes. Et que nous ne pouvons pas faire si on était
mais Bob, mais par rapport à ceux qui ont des documents, des résidences, et ceux qui sont en Afrique illégalement, est-ce que vous avez le même degré de traitement par rapport à ceux qui ont les documents et ceux-là qui n'ont pas de documents?
Oui, écoutez, ce n'est pas un problème de documents ici, c'est un problème de fuite du pays. Ce n'est pas un problème de se qualifier. On vous traite tous de la même manière. Et de mon côté, je regrette beaucoup notre gouvernement la manière dont on prend les étrangers dans notre pays. On les prend avec beaucoup plus de considération. Et par contre, je dirais que dans leur pays, c'est autre chose. Moi, j'ai eu la chance de non pas seulement la difficulté sur les pays au Kenya, j'ai vécu là-bas et je joue pour nos frères souffrent. Voilà, ce n'est pas que nous voulons nous engager à la xénophobie ou comment, mais nous considérons à notre développement de rejoindre la politique vis-à-vis des étrangers. Il y a des Africains qui travaillent à Fougouroumé, qu'on sort, mais par contre, ici, je veux, on ne peut pas faire des travaux que nous sommes capables de faire et que si tu es capable de faire ce travail chez Dieu, c'est que tu n'es pas l'un des leurs, tu ne peux pas le faire en tant qu'étant qualifié.
Merci beaucoup, Bob. Merci beaucoup.
C'est un travail chez nous, c'est que nous sommes.
Merci beaucoup Bob de ce témoignage. Vous êtes en Afrique du Sud. Vous pensez que ce n'est pas l'Eldorado comme les gens le pensent. Vous souhaitez que les gens restent au pays, mais à condition, bien sûr, comme l'a dit Ezekiel, que les conditions soient réunies pour permettre aux gens de ne pas beaucoup solliciter aller à l'étranger. Nous avons encore quelqu'un de l'extérieur. Dadou, vous êtes à Paris, en France. Bonjour.
Et bonjour.
Vous avez suivi les éditeurs qui sont passés avant vous. Il y a par exemple Bob qui a un fils qui pense qu'il serait même mieux de décourager
les Congolais de ne pas y aller, parce que des fois on fait des petits jobs qui ne sont pas au niveau de la qualification qu'on a eue au pays. Et pour vous, qu'est-ce qui peut encourager aujourd'hui les Congolais qui souhaitent aller à l'extérieur de ne pas y partir, et même vous qui êtes à l'extérieur de pouvoir entrer au pays comme l'a souhaité Ezekiel de Kananga?
Ah oui, merci, premièrement pour décourager ceux qui sont ici au pays de venir. Déjà, au monde actuel, on ne peut pas interdire l'immigration des gens pays immigrés, mais pour encourager que les gens quittent le Congo de façon régulière, de façon normale, pour qu'ils ne subissent pas des injustices ici à l'extérieur du pays. Mais pour qu'ils restent vraiment pour les encourager à rester au Congo, c'est le problème d'emploi, il faut de l'activité, il faut qu'il y ait de l'emploi là-bas, le gouvernement puisse avoir la politique de développer l'emploi et pour que les autres qui veulent venir, qui restent là-bas, parce que la raison première pour que tous ceux qui veulent en Europe veulent venir en Europe. La raison première, c'est l'emploi, ils cherchent la vie. Voilà. Mais nous, ici, pour retourner, c'est le même problème. Je suis ici, même vous êtes en France sans papier, mais par rapport à votre vie en France, et par rapport à votre vie au Congo, si vous êtes retourné là-bas, vous êtes retourné en arrière, même, vous comprenez. Mm-hmm. Donc, c'est la difficulté de ça. Si le gouvernement et l'environnement de l'emploi, l'environnement où on peut se retrouver, nous, ici, on est dans, en France, ici, le premier problème, c'est avoir des papiers, mais après avoir des papiers, il y a un autre problème, de trouver l'emploi, et trouver l'emploi, et l'emploi, il y a des emplois sans qualification, comme notre frère l'a dit, c'est pareil, nous sommes relégués dans les travaux que les Français n'aiment pas vraiment. Sans qualification, ouais. On peut retourner chez nous, hein? On ne peut pas, parce que si on retourne chez nous là-bas, et retourner en arrière, vaut mieux gagner des 1 000 euros qu'on gagne ici que de gagner rien là-bas. Quoi.
Voilà, merci Dadou. Nous allons garder Jean-Pierre Sétissa Kitassa, il va garder la ligne, le temps que M. Egide et Mary Egide Kanga puissent réagir à ce premier groupe d'auditeurs. M. Kanga, vous avez suivi ces auditeurs. Il y en a qui ont posé le problème de l'amélioration des conditions de vie, de la pauvreté, tout ce qui pousse les gens à pouvoir partir. Mais est-ce qu'au niveau de l'IAM, vous avez des programmes d'action au niveau des différents gouvernements aussi pour leur permettre, parce qu'aussi longtemps qu'on a des problèmes, en ce qui concerne, bien sûr, le mouvement clandestin, on va toujours en avoir, mais le déplacement normal, il va aussi exister, le clandestin va aussi exister. Mais avez-vous aussi le programme en amont auprès de gouvernements pour les aider effectivement à ce que le flux migratoire puisse être contrôlé par aussi l'amélioration des conditions de vie de la population?
Oui, merci beaucoup. J'aimerais d'abord dire une chose, que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État ou à l'extérieur de son État. Donc, je peux dire à l'étranger par rapport à son pays. Et cela, c'est un droit universel reconnu à tout être humain. Et d'ailleurs, c'est la résolution 217 des Nations Unies qui les consacre. Mais qu'est-ce qui se passe? Les territoires ne sont plus comme aux temps anciens où il y avait la migration sauvage, comme on peut dire. Et maintenant, c'est une migration contrôlée. Les États ont fixé des normes, ont fixé des règles que tout le monde doit respecter. Et qu'est-ce qui se passe pour la plupart des cas? Et d'ailleurs, c'est là notre cheval de bataille aussi. Nous remarquons que pour les Congolais, si nous prenons l'exemple des cas des Congolais, il y a peu qui connaissent quelles sont les normes requises pour les gens qui veulent partir à l'extérieur, hein, à l'extérieur du pays. Nous avons par exemple ceux qui traversent même des pays limitrophes, qui prennent des laissés-passer qui normalement ont une durée de 72 heures, je vais dire 3 jours par exemple. Vous allez trouver que la personne va au pays étranger les munitions fossiles, mais il reste pendant des jours, des semaines, des mois. Donc déjà, il y a une difficulté à notre niveau. C'est ça, c'est comme ça que nous efforçons à communiquer à info population, c'est qu'ils doivent savoir comment aller voyager à l'extérieur du pays, comment migrer, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, ce sont des choses comme ça qui mettent nos compatriotes parfois en difficulté. Je prends le cas de l'Angola. Et il y a beaucoup qui prennent le laissez-passer pour se limiter aux cités voisines à la frontière. Mais vous allez voir que ces gens-là parcourent des centaines de kilomètres pour se retrouver à Luanda, la capitale, avec le laissez-passer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, quand le gouvernement, je justifie aucune action, quand le gouvernement des pays étrangers essaye de mettre de l'ordre dans leur pays, et on va les taxer d'être contre les droits de l'homme, être compétitifs. Donc, c'est un problème de culture, de respect des normes. Mm-hmm. Et pour revenir à votre question, nous essayons, dans la mesure du possible, avec l'aide de certains bailleurs de fonds, nos partenaires, avec des petits programmes de renforcement des capacités des jeunes gens qui sont ici, pour les appuyer à apprendre les métiers et, au-delà, avec des outils pour se réintégrer dans la vie socio-professionnelle. Mm-hmm. Donc voilà, mais nous ne sommes pas seuls, l'OIM n'est pas seul, il y a beaucoup d'autres organismes qui appuient le gouvernement à travers beaucoup de programmes pour aider le pays, là où il y a encore des faiblesses, pour essayer de s'améliorer. Mais là, vous savez que vu l'étendue des problèmes qu'on a en RDC ou en Afrique d'une manière générale, ce n'est pas d'une baguette magique qu'on va résoudre des problèmes. Mm-hmm. Et pour revenir au témoignage des amis qui sont intervenus à travers le monde, pour dire que voilà là, des témoignages déjà qui vivent les conséquences de la migration clandestine. Parce que la clandestinité dont il est question ici, c'est à deux niveaux. C'est soit d'abord à l'origine quand on quitte le pays, et aussi il y a la clandestinité qui intervient à l'arrivée. Mm-hmm. Quelqu'un qui est allé avec 15 jours de séjour pour une visite de travail, pour aller assister à un mariage, mais qui arrive après 15 jours, se décide de rester dans un pays étranger. Mais il devient clandestin. Mm-hmm. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'on ne comprend pas. Vous pouvez voyager avec un bon visa, avec un passeport, mais dès que le visa est expiré, vous devenez irrégulier. Mm-hmm. Et c'est à ce niveau que parfois les gens se disent, non, voilà, j'avais un bon visa, pourquoi on doit me traiter comme ceci? Ben, il faut qu'on respecte les normes. Mm-hmm. Il faut qu'on respecte les engagements que vous avez pris par rapport à l'ambassade. Et si les premiers n'ont pas respecté les accords pour des visas, même d'études, même de recyclage, vous savez que vous pénalisez ceux qui viendront après vous solliciter ces visas-là. Mm-hmm. Donc voilà, à ce niveau de débat, ce que je peux dire. Il y a d'autres interventions, je suis à votre disposition.
Voilà, mais il y a deux questions ici précises hein, qui sont posées par les auditeurs. Il y a un auditeur, Alain de Lubumbashi, qui pose la question de savoir, il dit ceci, quand on parle de migrants, on met généralement plusieurs catégories de personnes. Pour lui, comment peut-on définir clairement des migrants? Ça, c'est la question d'Alain de Lubumbashi. Mais il y a aussi Romain de Taranga qui vous demande si vous avez les statistiques par rapport au cas des réunifications familiales qui ont été facilitées, bien sûr, en ce qui concerne la RDC. S'il y a eu, pendant cette année, vous avez une idée des cas des réunifications familiales qui ont été réalisées. Alain, lui, c'est par rapport à la définition claire de migrants. Et Romain, lui, c'est le nombre des cas de réunification familiale, si vous en avez.
Oui, je commence par la deuxième question. Chaque année, nous avons des statistiques qui nous amènent à presque 500 personnes que nous assistons. Mm-hmm. Et là-dedans, la majeure partie, je peux dire, les deux tiers, c'est les cas de réunification familiale. Mm-hmm. Et les un tiers, c'est une partie de réfugiés qui vont à réinstallation. Okay. Voilà un peu ce que je peux dire au niveau des chiffres. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui immigrent du pays sans passer par l'OIM. Parce que nous, on n'est pas un poste frontalier où tout le monde doit passer par nous pour se faire enregistrer. Mm-hmm. Donc la deuxième a d'autres statistiques qui sont plus larges que les nôtres. Mm-hmm. Et le migrant, qu'est-ce qu'on on peut entendre? Il y a beaucoup de terminologies. Hein. Donc il y a la migration, l'immigration, l'immigration. Mm-hmm. Ce sont des petites termes qui parfois prête à confusion, mais par migrant, on peut entendre toute personne qui quitte son pays, son lieu d'origine ou pays d'origine pour aller vivre ailleurs et qui s'expatrie pour pouvoir travailler ailleurs. Donc voilà, il faut comprendre que quand on quitte son milieu d'origine pour un autre milieu, là on est déjà migrant. Ça peut être une migration à l'intérieur de la frontière, donc là on beaucoup plus on parle de migration interne, c'est le cas de, nous avons ici les déplacés de guerre que nous connaissons tous, donc pas des migrants, même nous qui avons nous qui migrons de l'intérieur du pays pour venir travailler dans des grandes cités, nous sommes aussi des migrants. Donc voilà, ça doit s'entendre pas seulement par rapport à l'extérieur des pays, mais c'est toute personne qui quitte son milieu d'origine pour aller vivre dans un autre milieu.
Et nous avons Jean-Pierre ici à Kinshasa, Zachary. Et à Kinshasa, nous allons vous donner la parole, mais pour vous qui êtes à la maison, si nous écoutez, vous êtes à l'étranger, vous nous suivez sur www.radiocapi.net, écrivez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net.
Au Congo, les communes de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Jean-Pierre Pétissa Kinshasa. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour monsieur le journaliste.
Bon, vous avez suivi les uns et les autres depuis le début de l'émission, comment nous définissons le moyen de pouvoir aider les Congolais, parce qu'il y en a nombreux qui souhaitent bien sûr aller à s'installer ailleurs pour travailler. Vous avez aussi suivi les témoignages des amis, comme Bob qui est en Afrique, qui est à Paris. On vous écoute Jean-Pierre.
Oui, moi, ce que je voudrais d'abord dire...
Oui, Jean-Pierre, il serait mieux que vous puissiez diminuer le volume de votre poste récepteur hein, et suivre l'émission à travers le téléphone portable.
Oui, ça va maintenant.
Oui, éloignez-vous de plus en plus pendant que vous intervenez. Allez-y, on vous écoute.
Oui, je voudrais relever une chose. On ne peut pas parler de cette question tant qu'on sait qu'en Afrique, il y a au moins certains fléaux qui dérangent. Avant de parler de l'immigration, je sais que l'Afrique est habituée à la ratification des traités internationaux par certains gouvernements africains, mais ne comprennent pas pourquoi ils ne ratifient certains traités. Donc, bien qu'il y a des juristes, des constitutionnalistes, des intellectuels dans le pays, mais on ne comprend pas réellement pourquoi on ratifie des traités internationaux. C'est le cas de la RDC, où la ratification est une monnaie courante, mais l'applicabilité de ces traités pose un peu de problème. Avant de parler d'immigration et de comment on peut trouver solution pour la protection de ceux qui migrent, il faudrait d'abord se poser la question sur la politique interne qui est organisée en la matière. Est-ce que la République démocratique du Congo est organisée en matière d'immigration? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, je trouve qu'il faudrait d'abord parler de la restauration de l'autorité de l'État avant de parler de la question relative à la migration. On a au moins beaucoup d'exemples de nos compatriotes qui vivent dans d'autres pays qui sont des fois maltraités et le gouvernement congolais ne dit mot. On a vu pas plus tard qu'il y a 3 jours ou 2 jours, les Sénégalais qui ont été abattus en Italie, on a senti quand même le gouvernement sénégalais lever son ton pour condamner ce qui venait de se passer. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chaque fois que les Congolais sont maltraités, qu'ils soient partis dans de bonnes conditions ou qu'ils soient partis par des balises, le gouvernement congolais n'a fait aucun signe. Donc, pour moi, il ne faut pas parler de la question de migration dans un pays où l'autorité de l'État est bafouée. Et c'est ça ma contribution.
Merci Jean-Pierre. Vous pensez qu'il serait que l'État puisse s'intéresser plus à cette politique, concentre vraiment l'État présent quand il s'agit des besoins et des problèmes qui touchent aux migrants congolais qui sont à l'extérieur de la RDC. Merci beaucoup Jean-Pierre. Nous restons à Kinshasa avec Zachary. Bonjour Zachary.
Oui, bonjour monsieur. Je suis très intéressé par le débat du jour parce que j'ai été à l'origine du projet Opération Vandana Mboka qui concernait les Congolais qui vivent au Congo et Opération Zonga Namboka pour toute notre diaspora et qui a commencé à partir de l'Europe mais qui finalement a été très mal interprété par des compatriotes à l'étranger et finalement le projet s'est arrêté et les problèmes ont continué. En fait, le projet visait justement à favoriser le Congolais qui remplissent les conditions et qui vivent au Congo, qui puissent aller séjourner en Europe avec des documents qu'il faut. J'ai entendu M. Deloyem qui parlait, il a travaillé avec moi dans ce projet-là, et ce projet a marché. Et d'autre part, permettre aux Congolais qui sont partis pour une raison ou une autre, avec des papiers ou sans papiers, mais qui ne peuvent plus, dont tout, qui ont épuisé toute la procédure pour avoir un séjour dans les pays d'accueil, que le Congo puisse faciliter à ces compatriotes-là de revenir. Donc le projet avait bien commencé avec l'OIM, et grâce à l'intervention du projet, nous avons obtenu une centaine de gens entre 2004 et 2005 qui sont revenus au pays d'eux-mêmes. Alors, c'est ce qui fait un peu qu'aujourd'hui nous avons tous ces combattants, et en fait ce sont des messieurs qui ne savent pas comment vivre en Europe aujourd'hui avec la crise financière, et qui d'autre part, leur pays ne leur offre plus les possibilités de pouvoir revenir. Donc je pense que c'est un projet qu'il faut réveiller, qu'il faut juste dépoussiérer, et pour permettre à ce qu'on reprenne le projet, moi ou quelqu'un d'autre, mais pour faire que les Congolais soient respectés, parce que imaginez-vous, nous tous qui voyageons, qui avons l'habitude d'aller plusieurs années en Europe, si vous arrivez à Roissy, Charles de Gaulle ou à Zaventem, le passeport qui est marqué, c'est le passeport congolais. Donc il est biométrique. C'est un problème très sérieux sur lequel il faut qu'on se penche. La misère aujourd'hui ne peut plus justifier que nous puissions aller à l'étranger pour vivre davantage dans l'indignité. Que ça se passe aujourd'hui, que ce soit
Vous arrivez, vous avez fait le projet, vous avez quand même eu assisté 100 personnes entre 2004-2005, aujourd'hui nous sommes en 2011, mais qu'est-ce qui a fait que le projet puisse arrêter? Parce que vous pensez qu'il faut pourquoi le projet s'est-il arrêté?
Le projet s'est arrêté simplement parce que bon, le financement était un financement belge, essentiellement. Ce projet-là s'est arrêté à cette année-là. Il y a Yoloïm également qui est intervenu. Et grâce à l'explication qu'on a donnée aux gens, parce que souvent, il y a énormément de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui veulent revenir au pays, mais qui ne savent pas par où commencer. Les conditions d'accueil et tout ça, c'est aussi qu'ils ignorent la loi. Par exemple, un Congolais qui veut revenir dans son pays bénéficie au niveau de la douane de ce que nous appelons retour au pays. Donc la douane est facilitée, il y a des exonérations sur ses biens, l'exempté de la douane par rapport à ce qui lui appartient à ses biens. Il a une petite voiture, il a des petits fauteuils et tout ça, il ne faut pas payer la douane. Donc ce sont des choses qu'il faut renforcer et mieux communiquer au niveau des affaires étrangères. Donc c'est bien que les compatriotes qui sont à l'étranger, qui ne peuvent plus revenir, qui reçoivent des informations qui ne valent pas la peine. Aujourd'hui, cette journée devait nous faire réfléchir plutôt dans le sens du retour au pays. Parce que la manière dont on nous traite à l'extérieur, la manière des conditions dans lesquelles nous vivons à l'extérieur, avec nos femmes que nous avons épousées ici, et nous arrivons là-bas, ils jettent des affaires par la fenêtre, les épaules, ils jettent une mallette par la fenêtre, par une fille du quartier que tu as épousée, que tu as amenée en Europe, que tu as amenée en plus ou ailleurs, tout ça, ce sont des problèmes très sérieux qui font que la tête de beaucoup de gens, aujourd'hui en Europe, et à l'extérieur, est foutu. Donc aujourd'hui, si vous allez à la place de Matongo, vous voyez, il y a une centaine de fous, des Congolais fous. Des Congolais fous dans la rue à Bruxelles. Des Congolais fous à Paris. Donc c'est un problème. Il faut que notre pays, par dignité, doit mettre des mécanismes ensemble avec la participation de ces Congolais de l'étranger pour leur faciliter la tâche. J'ai vu énormément de frères qui sont revenus et qui se sont retrouvés ici.
Merci Zachary, c'est vraiment important. Nous souhaitons que le projet que vous aviez initié, d'ailleurs en appui bien sûr avec l'OIM, puisse aller de l'avant, que cela puisse marcher. Nous souhaitons vraiment que cela puisse réussir pour vous. Merci beaucoup de ce témoignage. Vous êtes ici à Kinshasa et de ce message. Nous allons en Belgique, là nous avons le sénateur Mokeni qui est en ligne. Bonjour honorable sénateur.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Nous avons déjà fait un grand débat avec vous dans cette émission Parole aux auditeurs lors de l'expulsion des Congolais qui vivaient en Angola. Mais aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale des migrants, ça sera le dimanche 18 décembre, nous en parlons déjà aujourd'hui. Et vous êtes le président de la commission relations extérieures au Sénat. Il y a un auditeur qui a dit qu'il est souvent inquiet du fait que chaque fois Et tant qu'il y a des problèmes qui touchent aux Congolais qui vivent à l'étranger, qui fassent des expulsions, qu'ils veillent des papiers ou pas, ils ne sont pas du côté du gouvernement congolais. Autant de mécanismes qui sont mis en place pour défendre leurs droits, pour les assister auprès de pays d'accueil. Comment, à quoi est dû cela, sénateur Mokeni?
Oui, avant tout, je salue tous les auditeurs de Radio Kapi, à qui je souhaite une bonne journée. Mmh. Et je pense que cette question a été en partie guidée par M. Zakari Balaba, ce que je viens d'expliquer, en disant que beaucoup de nos compatriotes à l'étranger ne sont pas informés des structures qui sont mises en place par le pays pour les accompagner. Tout simplement parce que la majorité de nos compatriotes, je dirais plus de 70%, ne s'enregistrent pas auprès des nos missions consulaires. Mm-hmm. C'était lors de mon intervention sur l'Angola, une des solutions qui est préconisée pour mieux gérer les flux migratoires, il faut d'abord connaître exactement quel est l'effectif de sa population à l'extérieur du pays. Mmh. Or, aujourd'hui, nous avons plus de 70% de Congolais qui ne sont pas connus par leur mission diplomatique et par les missions consulaires. Tout simplement parce que certains ont peur qu'en allant dans leur mission consulaire, on va rentrer en contact avec le fils des étrangers et que on va procéder à leur rapatriement ou leur famille serait inquiétée. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la majorité de nos compatriotes à l'extérieur ne sont pas informés de ce qui se passe réellement, parce que la meilleure personne qui peut leur donner ces informations, ce n'est pas seulement Internet, mais c'est surtout les ambassades, qui ont toutes les informations sur les politiques qui sont mises en place par notre gouvernement et par les ministères des Affaires étrangères. Au passage, je rappelle ici aux auditeurs que nous sommes le premier gouvernement de la République qui a, par l'entremise du président Kabila, mis en place le ministère du Congolais des étrangers, qui était animé par le ministre Tshomba, à l'époque Oleg Tshomba, et qui a connu un état des états généraux des Congolais des étrangers sur justement cette question. Malheureusement, ce ministère aujourd'hui a été repris au sein du ministère des Affaires étrangères, justement par manque de cohésion au niveau de ce que voulaient réellement les Congolais des étrangers à travers ces ministères pour que nous, politiques, nous puissions savoir quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre. Parce que les politiques prennent des décisions, c'est le leadership, mais doit en même temps savoir que veut sa population.
Mm-hmm. Voilà. Mais, bon, mais oui.
Ce volet-là, je ne veux pas trop m'étendre, je pense que c'est surtout le manque d'informations, un, lié au fait que les Congolais ne vont pas s'inscrire systématiquement auprès de leur mission diplomatique. Mm-hmm. Ce n'est pas une question qui est uniquement lié aux Congolais, mais aussi en Belgique, aussi au Congo, nous constatons que la majorité des expatriés ne sont pas enregistrés auprès de leur mission diplomatique. Mmh. Nous le constatons en tant que président de commission, j'ai dû à échanger avec plusieurs ambassadeurs de l'Union européenne, notamment la Belgique, il y a plus ou moins, je dirais, 50% des ressortissants belges qui sont légalement installés au Congo, qui ne sont pas fait signaler auprès de leur ambassade. Ils le font uniquement lorsqu'il y a des troubles pour qu'on puisse venir en aide auprès d'eux. Mais en ce qui concerne le peuple congolais, je pense qu'il est important qu'ils aillent dans leurs ambassades pour que nous, au niveau politique, nous sachions exactement quelle est la statistique des non congolais vivant dans les différents pays à l'étranger afin de conclure des accords de coopération qui pourrait permettre une meilleure réinsertion à travers les politiques concertées avec ces pays-là.
Mmh. La dernière question, sénateur Mokeni, vous êtes bien sûr membre du Parlement. Il y a trois auditeurs au début de l'émission, Ezekiel de Kananga, camarade de Bouna, qui ont eux pensé qu'il faudrait d'abord au niveau politique avoir des mesures en amont, c'est-à-dire que l'emploi, l'amélioration des conditions de vie, l'instabilité politique, cela, les guerres, ce sont aussi des fois des choses qui poussent les gens à pouvoir les chercher ailleurs. Être mieux, mais en tant que sénateur, dans ce volet, qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait en amont pour aider tant mieux soigner les Congolais et leur faire voir autre chose et éviter qu'ils puissent tout le temps recourir à ces mouvements envers l'extérieur?
Bon, je remercie l'auditeur du Canada pour cette question, mais en même temps, je vais répondre en disant nous ne pouvons pas réinventer la roue. Pour rappel, l'immigration est due au fait de la pauvreté. C'est la pauvreté qui est la cause profonde des immigrations, de l'immigration internationale. Aujourd'hui, le continent africain représente plus de 65% du flux migratoire vers le nord, donc vers l'Europe. Donc ce n'est pas une problématique propre au Congo, mais ce qui concerne le Congo, c'est la mise en œuvre par les politiques de mesures de coopération et de développement qui va permettre de mieux gérer cette migration. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que aujourd'hui, il y a déjà au niveau des ambassades, comme l'a dit M. Zachary Baladasse, la possibilité pour un Congolais qui vit, comme on dit, de manière permanente et avec un permis de séjour valable, aller solliciter auprès de son ambassade de pouvoir revenir au Congo et d'être exonéré de tous les taxes et les droits d'entrée sur ces effets personnels, ce qui est déjà non négligeable. La deuxième chose, c'est qu'au niveau, par exemple, de la création de l'emploi, nous avons l'Agence nationale de promotion des investissements, l'ANAPI, qui a mis en place justement une politique pour appeler à ce que les Congolais d'étrangers puissent venir investir au Congo avec des avantages plus intéressants que les Congolais vivant au Congo eux-mêmes. Parce que en tant que Congolais d'étrangers, on peut bénéficier donc de la batterie de génération qui est mise en place par la NAPI. C'est uniquement parce qu'on est Congolais d'étrangers. Alors que quand on est Congolais du Congo, donc domicilié au Congo, nous ne bénéficions pas de ces exonérations. Ce qui est déjà une volonté de la part du gouvernement de pouvoir rapatrier cette foule de capitaux. Mais maintenant, je veux dire aussi, la stabilité politique créée par ceux qui concourent à l'alternance du pouvoir ne favorise pas non plus une meilleure gestion de ce flux migratoire, parce que les gens, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils veulent braver l'autorité de l'État pour pouvoir sortir du pays et aller demander asile pour raison qu'ils sont des réfugiés politiques. Et en fait, ce sont des réfugiés économiques. Et la raison pour laquelle nous avons autant de gens dans les rues, c'est parce que tout simplement nous n'avons pas suffisamment d'emplois à créer. Alors, je pense que la solution première serait réellement la création d'emplois et une meilleure politique sociale sur laquelle nous allons nous attaler ces 5 prochaines années.
Merci beaucoup, le sénateur Mokini, de ces témoignages et de ces propositions. Vous êtes en Belgique, je rappelle que vous êtes le président de la commission relations extérieures au Sénat, ici en RDC. Nous avons aussi Alf Raoul qui nous appelle de l'Allemagne. Nous tendons vers la fin de cette émission. Nous gardons notre invité en ligne, Monsieur Kanga, qui pourra ramasser toutes les autres interventions pour proposer des auditeurs pour conclure cette émission. Le temps de suivre aussi Ralph Raoul qui nous appelle de l'Allemagne après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Ralph, vous êtes en Allemagne, bonjour.
Oui, bonjour, je suis Ralph Raoul, ici en Allemagne, à la ville de Francfort.
Vous avez suivi notre, vous avez suivi le cheminement de cette émission autour de la situation des migrants, parce que nous en parlons, bien sûr, mais notre souci, c'est l'encadrement des Congolais. Mais par rapport à votre expérience, pour ceux qui vivent là depuis plusieurs années, avez-vous déjà reçu quand même le soutien, le moyen de pouvoir retourner, ou soit les uns qui ont eu les initiatives qui sont revenus au pays, qui se sont réinstallés, et les choses ont pu aller de l'avant, ou bien plus, les gens y arrivent et nous pas retourner au pays?
Moi, je suis né en 1960 à Kinshasa. Je suis congolais. J'habite en Allemagne depuis une vingtaine d'années, à peu près 25 ans. Et en 1993 ou bien 93, il faut parler vraiment en congolais, en 93, j'étais au pays. Et puis, même en 95, j'ai examiné le pays. Bon, allons un peu au point. Je remercie avant tout tous les intervenants parce que j'ai beaucoup appris et puis merci beaucoup à la radio Capi aussi. Puis vous permet aussi d'intervenir. Alors, le point qui a souligné, c'est que toute personne, comme vous avez entendu, a été libre d'habiter sur n'importe quelle place. Où il peut se passer au Congo, ou bien en Allemagne, ou bien précisément en France, etc. Voilà. Mais qu'est-ce que ça se passe d'une bonne façon, d'une bonne façon, en respectant les lois de ces pays-là. Mm-hmm. Mais d'après mes expériences acquises ici en Allemagne, les grands problèmes, ou bien les points qui sont soulignés, n'importe où vous alliez, même si vous êtes né à Kinshasa, par exemple, et puis je voudrais faire, comment dirais-je, un voyage pour aller habiter au Kasaï. La première chose à faire, c'est apprendre la langue, apprendre comment vivre ces gens-là, pour faire de son mieux pour qu'on soit intégré. Mm-hmm. Parce que le progrès, ce n'est pas l'assimilation. Intégré, c'est-à-dire que je m'intègre, je suis congolais, mais j'habite en Allemagne. Le premier point, c'est que on parle allemand, il faudrait que je fasse tout pour apprendre l'allemand, il faudrait que je fasse tout pour profiter du temps que je suis ici, ce que je pouvais apprendre au Congo et que je n'ai pas appris, que je fasse l'université. Je ne suis pas à l'université, il y a plusieurs formations à découper afin qu'on puisse quand même avoir un bagage bien assis pour, comment dirais-je, affronter aussi la concurrence au marché du travail. Et de là, de toute façon, même ici en Allemagne, je ne vais pas mettre la fantomique en disant que je suis en Allemagne. Non, même ici en Allemagne, il y a le racisme caché et puis le racisme ouvert à l'œil nu. Mais il faudrait combattre, il faudrait toujours avoir l'espoir que, en cherchant, en tocant les portes, on pourrait avoir quelque chose. Bien entendu, on peut avoir un diplôme en gestion, en université, mais vous ne travaillez pas comme un directeur d'entreprise parce que du coup, racisme peut être caché. Mais ne fût-ce que vous travaillez au bureau comme administrateur avec d'autres Allemands, avec d'autres personnes. Donc, vous collectionnez des expériences par-là pour qu'un jour vous puissiez rentrer au pays. C'est ce que moi je donne comme conseil à toute personne qui habite en France ou bien en Belgique et tout, en profiter du temps, surtout aux gens qui ont déjà reçu ces papiers, en profiter du temps. Il y a possibilité d'apprendre quand on est en Europe.
Pour pouvoir apporter cette expérience.
Oui, pour avoir des bagages, c'est
parce que ramener ça au pays. Merci.
Ramener ça au pays. Alors, moi, ma question, c'est à tout le monde, surtout au Radio Capi.
Allez-y rapidement. Oui. Allez-y rapidement.
Ma question, c'est comment nous favoriser, comment nous permettre pour mettre une chose là très officielle, pour permettre aux gens qui voudraient retourner officiellement au pays, et comme je vous remercie, j'ai entendu parler des exhortations douanes, etc. Vraiment, que ça soit officiel, qu'on puisse lire ça dans l'internet, qu'on puisse
lire ce qu'il
faut faire pour rentrer au pays, même avec les enfants, même avec la famille, et pour se réintégrer.
Voilà. Merci beaucoup, Ralph, Raoul, vous êtes en Allemagne. Nous allons donner la parole à M. Kianga parce qu'on va terminer cette émission par là. Pour conclure, il y a une question posée par Ralph et Raoul de l'Allemagne. Ils voudraient savoir par quel moyen ils sont en contact avec le service comme vous, par exemple, pour l'aider à pouvoir revenir officiellement au pays. Y a-t-il des contacts, y a-t-il un site internet, mais aussi ramasser peut-être en une minute les autres préoccupations que nous avons suivies les dernières interventions. Et ça vous donne l'occasion de pouvoir conclure cette émission, M. Kianga, parce que là, on a que, je crois bien, 3 minutes. On vous écoute.
Oui, merci. Je vais d'abord commencer par dire que le 18 décembre que nous célébrons le dimanche, et pour l'OIM, par la voix de son directeur général, M. William Chung, que vous connaissez bien, est placé sur l'accès des migrants à la santé. Parce que vous savez que les migrants, comme on a décrit, là je félicite notre ami Zachary qui a milité avec nous et j'espère qu'on va toujours travailler avec lui dans l'effort de l'information et de sensibilisation de nos populations. Vous savez que tous ceux qui sont dans les régularités ne bénéficient pas de tout. De toutes les facilités, notamment l'accès aux soins de santé. En dehors de l'Argentine, le Brésil, l'Espagne, la France et le Portugal qui acceptent quand même de donner l'accès à ceux qui font dans l'irrégularité, donc au clandestin. Tous les autres pays n'ont pas encore bougé et notre directeur général est en train de travailler durement sur cette voie-là pour que en ces années où on compte plus d'un milliard de migrants à travers le monde, notamment 214 millions de migrants internationaux, y compris les Congolais qui se retrouvent à l'étranger, et nous avons au moins 800 millions des migrants internes. Donc, comme je l'avais expliqué avant, même les déplacés des guerres ou des déplacés internes. Voilà les efforts de l'OIM à travers le monde, à partir de Genève, au quartier général, qui
s'activent
pour répondre aux questions diverses que tout le monde se pose.
Merci beaucoup, monsieur Emery Egypte Kanga. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chargé des opérations au bureau de l'OIM ici en RDC. On se retrouve le lundi 19 décembre prochain. Nous allons revenir sur la clôture de la session du mois de décembre au Parlement et la dernière de la législature pour l'Assemblée nationale. Une seule question, comment jugez-vous le travail de l'Assemblée nationale durant ces 5 dernières années? Prenez rendez-vous sur pa@radiotapi.net. Merci à toute l'équipe, au revoir et bon week-end à tous.
Ceci est un message.